Jusqu'à 5 ans. À papier été, tout le monde déjeune. L'Europe, midi, se passait à 11h. Maintenant, c'est midi. Mmh. Et dans ce temps-là, c'était 11h. Donc, on avait 2h pour déjeuner, de 11h à 13h. Mmh. Et ensuite, jusqu'à 5h de l'après-midi. Alors, de 1h à 5h, j'étais donc
à maman.
À maman. Il n'y avait pas beaucoup de travail. Il n'y avait pas beaucoup de visiteurs. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de pièces à entretenir. C'était très pauvre, le musée de l'époque. Et c'est surtout la bibliothèque. Et là, j'ai accéléré mes études d'histoire et d'art de la Polynésie. Alors là, j'avais vraiment toute la bibliothèque à ma disposition. Alors là, j'en ai pris des notes, j'en ai compulsé des bouquins.
Ah oui, ça c'était à toi, pour toi tout seul.
Alors là, c'était la fête.
Et il y a, parmi les gens qui venaient, par exemple, emprunter des livres, à l'époque, il y avait c'était qui ? C'était des jeunes, c'était plutôt les demi, c'était des Français, il n'y a pas de Tahitiens.
Surtout des Français, des chefs de service de l'administration, beaucoup d'officiers de marine.
Beaucoup d'officiers de marine.
Enfin, officiers de marine. Évidemment, le commandant de la marine. Mmh. Quel qu'il soit, était d'emblée membre de. Venait se faire inscrire comme membre de la société, le commandant de la caserne aussi, tout ça. Mmh. Tous ces gens-là. Un gendarme par-ci, par-là, mais très peu. Ils étaient encore devenus très intellectuels, les gens. Je ne sais pas si aujourd'hui, mais enfin,
ils sont plus. Non, leur formation a quand même changé.
Oui, enfin, bref. Un de mes premiers visiteurs, ça a été quelqu'un qui est devenu mon grand ami par la suite, il s'agissait de Jean Massin.
Ah, le peintre.
Il est à peine installé, en 38, qu'il est arrivé de France avec sa jeune femme, Sylvia. Il avait bénéficié d'une bourse de voyage à l'occasion de l'exposition universelle de 37 à Paris. Il avait obtenu le grand prix de la ville, le grand prix de dessin de la ville de Paris. Ça lui avait fait un peu d'argent. Il avait une bourse de voyage. Il était venu. Ils étaient jeunes mariés tous les deux. Je les vois encore arriver là tous les deux. Évidemment, une de leurs premières visites, c'était pour le musée. C'était la sympathie immédiate. On était du même âge, tout ça. Il avait fait les Beaux-Arts de Boulogne, tous les Beaux-Arts de Paris. Bref, moi, l'école Boulle, on est devenu. Ils étaient très communicatif, très ouvert vers les autres, alors tout de suite on était des grands amis.
Mais
ils sont venus à la maison, Pauline a sympathisé avec Sylvia, enfin bref, c'était.
Et là il n'était pas encore peintre établi.
Il était peintre aussi.
Il était déjà peintre.
Ah si. Ah. C'est tout de suite dans la peinture, Sylvia dans la gravure sur bois, etc., parce qu'elle est artiste elle aussi. Et alors, ça a été une amitié qui a duré jusqu'à sa mort. Mmh.
Mais il est resté longtemps ici, la première
fois. Il est arrivé en 38 et il est reparti en 42. Pendant la guerre, il est parti en Amérique. Mmh. Rejoindre sa belle famille, la famille de Sylvia. Il s'était replié d'Angleterre en Amérique. Elle était anglaise. Lui, il était agent de change. Et il s'était replié en Californie, à Santa Catalina, je crois.
Oui, Santa Catalina.
Et alors, ils sont allés s'installer à San Francisco. Ils ont resté 4 ans, de 42 à 46. En 46, après la libération, ils sont rentrés en France, installés à Villefranche-sur-Mer, en faisant de la peinture. Et puis, un jour, Sylvia était enceinte. Et elle a voulu accoucher à Tahiti. Ils sont revenus à Tahiti en 47, je pense, non ? Entre 46 et 47.
Et elle a accouché ici ?
Oui. Sa fille est née à Tahiti. Et la seconde aussi, d'ailleurs.
Et là, ils sont restés, alors
Là, ils sont restés définitivement.
Mais dès le premier voyage, ils ne vont pas au Tuamotu ?
Non, pas tout de suite. Tout de suite. Ils s'étaient installés... Ils étaient revenus à la pointe Vénus. Parce que lorsqu'ils étaient partis de Tahiti, ils étaient à la pointe Vénus. Tout simplement parce que avant ils étaient à Mahana, sur la montagne.
Ah bon?
Même sur la montagne. Une maison est construite par un Autrichien nommé Feiger, qui louait ça. Alors, il y avait de l'eau croupie dans un drum qui venait de la pluie, chaude et croupie, pas délicieux. Et puis alors, bon, ben, il fallait descendre jusqu'en bas pour le ravitaillement. Lui, qui boitait, c'était quoi? Son boulot, c'était de servir, descendre jusqu'à la route pour avoir du pain et tout ça. Quand on les a connus, ils étaient là-bas. Tout de suite, ils nous ont invités un dimanche là-haut. Ils avaient une vue magnifique. Il y avait un motu pas très loin de là, à Marina. Mais c'était un peu précaire. Et à ce moment-là, donc on était à propriété, mais je suivais des cours du soir de radiotélégraphie.
Ah oui.
Il s'agissait de devenir quand même fonctionnaire.
Quelques années.
Pour faire bouillir la marmite. De manière plus sûre qu'avec mes petits revenus plus ou moins hasardeux. Alors j'ai donc suivi pendant 13 mois les cours d'opérateur radio à propriété. Ça se tenait dans l'enceinte des travaux publics.
Mm-hmm.
Et puis au bout de 13 mois, j'ai obtenu mon brevet opérateur radio. Et je suis entré dans l'administration des PTT comme agent surnuméraire avant 2 ans, je me rappelle. Alors, tout de suite, il a fallu aller en stage à Marina. J'ai donc loué une maison. À Marina, je ne me rappelle plus le nom de propriétaire. C'était une grande maison, très agréable, avec sur pilotis, une grande véranda tout autour de la maison, juste à côté de l'église catholique de Marina.
Ouais.
Bon, alors, un dimanche, les maçons sont venus là, c'était le coup de foudre.
Ah, pour cette maison.
Pour Marina.
Mmh.
Pour
ah, cette...
mmh. Alors, tu vas rester combien de temps là, Henri? Ben, mon stage est de 6 mois, après je quitte, on m'envoie ailleurs. Alors, tu veux parler à ta propriétaire pour prendre la suite? Naturellement, bien sûr. Alors, en attendant, ils ont cherché quelque chose d'autre à Marina, pour qu'on soit plus près. Ils avaient trouvé une maison qui appartenait à Thibault Dexter, tout à fait à la pointe, près du phare.
Près du phare.
De l'autre côté de la petite rivière, d'ailleurs. Bon, elle n'existe plus, elle a été enlevée par le cyclone des 40. Donc, ils étaient là, et au bout de 6 mois, quand j'ai quitté, ils sont venus là.
S'installer
dans la maison.
Mais pour toi, ça a dû être vivifiant sur le plan humain, sur le plan intellectuel, cette rencontre avec Masson.
Ah oui, beaucoup. On était devenus inséparables. Inséparables.
Parce qu'autant tu n'avais aucun atome crochu avec tous les Français qui étaient là, mais là, un artiste.
Alors là, voilà. Les gens qui étaient venus comme ça à l'aventure eux aussi, pour la beauté du pays, pour rien d'autre, alors là, d'accord. Ah, d'accord. Ouais. On était toujours ensemble, on parlait. Il avait déjà une petite bibliothèque d'art, des bouquins de peinture surtout. Hein. Alors, Gauguin, bien entendu, Van Gogh à fond. Il était très Van Gogh à l'époque, plus que Gauguin d'ailleurs. Je crois que Van Gogh, je m'en gorge. C'est pas l'âge de cocotier. Il faisait des
tourbillons.
Les tourbillons.
Mais lui, c'est pas par le courant naturiste qu'il est venu ici.
Non, pas du tout. Mais il aimait la vie dans la nature. Ouais. Il allait à la pêche, il était fou de pêche. Son père était pêcheur.
Mmh.
Alors, il était marin-pêcheur, par conséquent, à Boulogne. Il a toujours aimé la mer, la pêche. Alors, je le vois encore, son grand chapeau, très large. Il avait l'air d'un champignon, il était petit avec un grand chapeau. Et puis alors, Claude Dicamp avec son patron, il est toujours en paréo. Puis sa canne à pêche, sa canne à lancer. Oui. Et Sylvia s'est mise à la sculpture, hein. Elle fait des choses très très belles, d'ailleurs.
Dans les surbois.
Du bois, ensuite du corail.
Ah,
oui, le bois. Le corail qu'on sculpte, hein. Très tendre et suffisamment compact pour qu'on puisse faire quelque chose. Hein. Il reste de ces sculptures chez Rosine Masson à Bonobo. Et alors après, bon, bah, c'était un vie de fonctionnaire. On est rentré à propriété. Alors on a habité dans la maison de famille de Pauline.
Ah, d'accord.
À Loupard, là. J'existe toujours. Et puis moi, je faisais mes stages en administration. On voulait m'envoyer dans les îles. Il fallait que je sois instituteur, infirmier, que je tienne le bureau de poste, que je sois maître de capitaine de port, enfin, c'est un truc invraisemblable.
Et après le stage à Marina qui a duré 6 mois, vous vous êtes retrouvé à Papeete. Et là, ça a duré combien de temps, je crois, avant de partir aux îles?
Quelques mois, en fait. Au moins 6 mois aussi. Je faisais un mois dans chaque service.
Un mois?
Oui. Un mois au trésor pour tenir les comptes du trésor, pour être gérant des comptes du trésor. Un mois à la poste pour être postier.
Un mois à la gendarmerie?
Non, pas à la gendarmerie. Là, j'aurais un peu en appel. Mais un mois à l'hôpital pour être infirmier. Et un mois à la pharmacie aussi de l'hôpital pour être capable de fabriquer des pilules contre l'anémie, ou deux trucs comme ça. Je me suis fait quelques bons copains. Au passage, c'était toujours ça de gagner. J'ai gagné surtout des amitiés beaucoup plus que des connaissances, d'ailleurs. Parce qu'on ne peut être qu'amateur dans toutes ces matières en si peu de temps. On avait préparé pour moi le matériel pour créer une station de radio à Manou. Et par conséquent, pour me faire administrer en même temps à Manou et Hao, c'était tout près. Et puis la guerre est arrivée et tout est tombé à la flotte. Alors, j'avais été ajourné au conseil de révision en 33 parce que, à cause de ma colonne vertébrale déformée. En 39, quand la guerre s'est déclarée, bon, je me suis pointé avec mon livret militaire la journée à la caserne. Et j'ai été renvoyé dans mes foyers immédiatement, bien entendu. Il y a eu la débâcle en France en 40. Alors, il s'est trouvé que le radiotélégraphiste de Bora Bora, Louis Picard, avait demandé à revenir à propriété. On m'a envoyé à Bora Bora. J'ai pris la succession de Louis Picard à Bora Bora.
Tu es parti tout seul? Tu étais parti avec Pauline?
Avec Pauline, bien entendu.
Non, mais ça, je ne savais pas.
Pauline n'étant pas fonctionnaire, elle était libre de me suivre. On habitait dans la résidence du gendarme à Bora Bora. Je faisais la météo, je faisais tous les petits boulots. Il y avait deux vacations de radio par jour, le matin et l'après-midi. J'étais la vie de château, en quelque sorte. Très peu de travail, un travail très diversifié. Et puis bon, ça marchait. La seule chose qui m'ennuyait, c'était les comptes du trésor, parce qu'il fallait faire des comptes. Et moi les chiffres, je suis ignare, bien entendu, je sais faire une addition, les quatre opérations fondamentales, mais je savais même faire la racine carrée, la racine cubique. Enfin, ne sais plus aujourd'hui. J'ai complètement oublié ces connaissances supérieures.
Je sais pas si déjà alors, si ton petit-fils dirait que c'est supérieur.
Mais alors, quand il s'agissait de faire les comptes de fin de mois, je souffrais de toutes les offres de l'enfer. Alors.
Et tu faisais les comptes de qui? De l'instituteur
Non, mais les comptes du trésor. C'était moi qui payais les fonctionnaires, c'était moi qui touchais les impôts et les amendes. Par conséquent, j'avais à rendre des comptes tous les mois à propriété. La balance de mes comptes. La croix et la bannière. Parce que si les mouvements d'argent s'étaient toujours faits en monnaie, ça aurait été simple. Mais alors, voilà. J'étais aussi le chef du bureau de poste. Je tenais le bureau de poste. Les gens venaient acheter des timbres. Ils n'avaient jamais la monnaie. Et moi, j'avais rarement la monnaie aussi. Je rendais la monnaie en timbre.
Aïe.
Et alors, la réserve de timbre entrait dans dans le compte des espèces. C'est tout juste, ils ne voulaient pas me rendre la monnaie en boîte d'allumettes, parce que chez le Chinois, à côté, on rendait la monnaie en boîte d'allumettes.
J'ai refusé les boîtes d'allumettes, évidemment, parce que ce n'était pas prévu par les règlements. Alors, c'était les timbres. Oh là 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 là. Alors, au moment où le bateau hebdomadaire relâchait, c'était la boule celui-là dans mon bureau pour timbrer les lettres. Bon, très bien. Alors, je rendais de la monnaie comme ça, je ne pouvais pas noter au fur et à mesure, n'est-ce pas? Alors après, pour retrouver le fil de mes idées dans tout ça, après, c'est une...
C'était la goélette administrative, il y a déjà une goélette administrative.
Non, c'était la goélette privée. J'ai connu le Hiro qui venait là, et d'autres, la Benicia, d'autres, pas tout le monde.
C'était vraiment les goélettes à voile ou à...
Ah, le Hiro était à moteur, la Benicia était à voile et à moteur. La goélette administrative venait de temps en temps, bien sûr, mais c'était rare.
Et vous êtes resté combien d'années à Bora Bora?
Plus d'un an. J'avais à m'occuper de Bora Bora et de Mopiti aussi.
Ah, Mopiti. Oui. Tu te déplaçais comment jusqu'à Mopiti?
La première fois, ça a été en voilier sans moteur. Un petit voilier de Bora Bora.
Et tu as traversé la fameuse passe.
Oui. Enfin, on est rentré comme une lettre à la poste. C'était calme le matin. Mmh. Il y avait une petite brise qui venait dans le bon sens. Un petit coup de maramou léger. Mais très très léger. Parce que s'il avait été fort, la passe aurait été barrée. Alors on a été aspiré. On s'est présenté à la marée montante. Par conséquent, on est entré là-dedans. Je n'en ai pas aperçu. J'ai bien vu les courants de part et d'autre, un peu à 1 ou 2 mètres du bateau de chaque côté, mais enfin bon.
Pas très loin, c'est jamais pas très loin.
Mais alors pour la sortie, c'était autre chose. On est resté 11 jours bloqué par le maramou.
Ah oui.
Parce qu'il s'est établi, alors, passe barré, et alors, on n'avait plus rien à faire, que du tourisme.
Et là-bas, il n'y avait ni gendarme, ni...
Non, mais rien.
Il n'y avait rien, ni poste, ni téléphone, ni...
Non, rien, même pas d'infirmier, rien. Il y avait un instituteur. Ah oui, un instituteur, c'était un pauvreté. Avec sa femme, pauvreté.
Henri, il est 11h.
Oui, on va arriver
dans un...